Voici les deux textes liturgiques pour ce 13e dimanche après la Pentecôte, l'épître tiré de Saint Paul aux Galates. Frères, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Dieu ne dit pas « et aux descendants » comme en une multitude, mais comme en un seul. Et à votre descendance qui est le Christ. Voici donc ce que je dis. L'alliance que Dieu a confirmée par serment n'est pas abrogée avant ce qu'elle promet par la loi, qui a été faite 430 ans après. Car si c'est par la loi que vient l'héritage, ce n'est plus par la promesse. Or, c'est pas la promesse que Dieu l'a donnée à Abraham. Mais alors, que vient faire la loi? Elle a été établie à cause des transgressions. Jusqu'à ce que vint cette descendance en faveur de qui Dieu faisait la promesse. Elle a été dressée par les anges et mise dans la main d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, et Dieu ne fait qu'un par lui-même. La loi va-t-elle donc contre les promesses de Dieu? Non, certes. S'il avait été octroyé une loi capable de donner la vie, la justice ne viendrait de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché pour que la bénédiction promise fût donnée aux croyants par la foi au Christ Jésus. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, pour aller à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il allait entrer dans un village, 10 hommes atteints de la lèpre vinrent à lui. Et se tenant à distance, élevèrent la voix en disant « Jésus, notre Maître, ayez pitié de nous ». Lui, les ayant vus, leur dit « Allez vous montrer au prêtre ». Il arriva que pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés de leur lèpre. L'un d'eux donc, se voyant ainsi purifié, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il se prosterna la face contre terre à ses pieds en lui rendant grâce. Or, il était samaritain. Alors Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés, et les 9 autres, où sont-ils donc ?» Il ne s'est trouvé à revenir pour rendre gloire à Dieu que cet étranger, et lui dit « Levez-vous, allez, votre foi vous a sauvé. » Allez vous asseoir. Quelques annonces. Alors, je m'excuse aujourd'hui, je n'aurai pas trop le temps pour parler avec vous après la messe parce que je dois aller chercher quelqu'un à l'aéroport de Toulouse. J'ai un peu de temps. Je suis obligé de partir dès que les choses sont sur Internet. Je vous rappelle que nous aurons un repas, le repas du mois, le dimanche 18 septembre, donc après la messe. N'oubliez pas aussi que ce mercredi, donc je commence ici dans la chapelle, un nouveau cours sur les actes du magistère, c'est-à-dire l'explication des grandes encycliques pontificales du 19e et du début du 20e, et je vais commencer par Quanta Cura, le syllabus de Pie IX de 1864. Je reprendrai un peu les idées que Mgr Lefebvre nous a très bien expliquées pendant mon séjour au séminaire. Alors, ce cours aura lieu à 20h, on commence juste à l'heure, 20h, 21h30. 21h30, c'est fini. Rassurez-vous, je ne dépasse pas l'heure et demie pour ces cours. Le cours sera enregistré en audio et en vidéo. Comme ça, vous l'aurez sur le site pour pouvoir le suivre pour ceux qui sont intéressés. Parce qu'évidemment, la plupart d'entre vous ne vont pas pouvoir revenir en semaine. Ceux qui veulent venir sont les bienvenus, bien sûr. On fera ça ici à la chapelle. Donc, le mercredi et tous les mercredis de 20h à 21h30, sauf les mercredis où j'ai une retraite ou je suis obligé de partir. Ce qui est... Je vous indiquerai à l'avance les jours où je suis là, les jours où je ne suis pas là. Donc j'insiste sur ce cours, si vous ne pouvez pas venir, au moins essayez de travailler sur le site, soit directement avec l'audio, soit avec la vidéo, c'est plus facile pour vous de voir le prédicateur, parfois plus facile de suivre comme ça. Je mettrai un tableau pour pouvoir éventuellement mettre également des choses par écrit. Donc travailler ce cours, c'est quelque chose de très important. Connaître l'enseignement de l'Église sur la doctrine. Aussi, parler un peu autour de vous du site. Le site, nouveau site dame-marie.net est bien opérationnel maintenant, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous pour le faire connaître. Vous pouvez avoir aussi, à partir du site, directement accès à la chaîne YouTube avec la vidéo de la messe. C'est que maintenant, avec la grâce du bon Dieu, pour la première fois, dimanche dernier, on a dépassé les 400 familles. Non, il y a plus de 400 familles maintenant qui se contactent, qui se connectent tous les dimanches. Des gens qui parfois qui habitent très loin, qui n'ont pas de messe en général. Et donc, Dio gracias si du bien peut être fait au niveau des âmes. Donc n'hésitez pas à parler un peu du site pour que justement les gens puissent se connecter plus facilement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, je vais commencer ce sermon par une parabole, comme notre Seigneur faisait. Voilà un jardinier qui a un grand jardin. Il n'est pas propriétaire du jardin, mais il est jardinier officiel. Il est le gardien du jardin. Un grand jardin qui couvre une grande surface, et il y a une dizaine d'allées dans ce jardin. Et comme il est un bon jardinier, il vérifie évidemment qu'il n'y a pas de mauvaises herbes qui poussent dans le jardin. Et qu'est-ce qu'il fait? Tous les matins, il vient dans son jardin et il parcourt les différentes allées. Il parcourt les différentes, il vérifie sur les différentes plates-bandes pour être sûr que les mauvaises herbes n'ont pas poussé pendant la nuit. Et quand il voit une mauvaise herbe, même toute petite, il l'arrache. Puis il revient le soir. Il y a deux fois par jour. Deux fois par jour, il vient et il analyse l'état du jardin, il vérifie que tout pousse correctement, que les plantes sont en bon état et que surtout qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Il fait ça tous les jours. Et s'il constate qu'il y a certaines allées qui produisent plus de mauvaises herbes, peut-être à cause de l'exposition au soleil ou à l'ombre, je ne sais pas, eh bien il va surtout s'occuper de cette allée-là. S'il constate qu'une allée est plus difficile à travailler et à garder propre, donc il va passer plus de temps dans cette allée pour être sûr que les mauvaises herbes ne poussent pas dans cette allée, même si ça lui prend plus de temps. Et il fait ça bien tous les jours. Imaginez ce jardinier qui soit pris d'une crise de paresse et qui se dise: oh, c'est bien le travail tout ça. Deux fois par jour, je suis obligé de revenir. De toute façon, elle repousse tout le temps ces mauvaises herbes. Alors, je l'ai laissé pousser. D'abord, le jardin à côté, il est plein de mauvaises herbes. Le jardin à l'autre côté, il est aussi plein de mauvaises herbes. Pourquoi est-ce que je ne fais pas comme tout le monde et je ne laisse pas les mauvaises herbes pousser partout? Bien, s'il fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Les mauvaises herbes vont tout envahir. Et au bout d'un certain temps, le jardin est devenu une forêt vierge et est devenu absolument ingérable. Et même bien, chers frères, nous, on a une âme. Notre âme, c'est notre jardin. Nous ne sommes pas propriétaires de cette âme. Tant s'en faut. Nous sommes le gérant, en quelque sorte, de cette âme qui ne nous appartient pas, encore une fois. Et je dois, moi aussi, tous les jours, au moins une fois par jour, voire même deux fois par jour, vérifier que les mauvaises herbes, savoir les péchés véniels, ne poussent pas dans le jardin. Et si je laisse les mauvaises herbes envahir mon âme, c'est-à-dire si je laisse les péchés véniels se multiplier, ça va devenir de plus en plus dramatique. Et au bout d'un certain temps, si je ne fais pas attention, ce ne sont plus des mauvaises herbes qui vont pousser, mais des arbres qui vont devenir des chênes vigoureux absolument indéracinables. Et donc, je vais devoir examiner avec grand soin mon âme pour être sûr que les mauvaises herbes ne poussent pas dans les allées de mon âme. Et la pire des choses qui puissent m'arriver, c'est de considérer, comme les gens modernes le font, que le péché véniel est quelque chose d'inévitable. Le péché véniel est quelque chose de normal, parce que finalement, tout le monde le fait autour de nous. Puis que de toute façon, s'il y a quelques péchés mortels qui se promènent au milieu de l'arbre, au milieu des allées, ce n'est pas très grave, parce qu'encore une fois, tout le monde est comme ça autour de moi. Quelqu'un qui considère que le péché véniel est quelque chose de normal dans une âme, et quelqu'un qui est en train de perdre la foi ou qui l'a déjà perdue. Malheur, malheur, malheur à celui qui ne se rend pas compte de la gravité du péché. Certes, un péché véniel ne coupe pas de la charité. Même si vous avez des millions de péchés véniels dans votre âme, vous êtes toujours en état de grâce. Mais le devoir d'un chrétien, c'est de se bagarrer aussi contre les péchés véniels. Ceci permet d'expliquer l'évangile d'aujourd'hui. Dix lépreux qui viennent à notre Seigneur Jésus-Christ couverts de lèpre. Autant notre Seigneur Jésus-Christ, la lèpre était une catastrophe. Les lépreux étaient mis au ban de la société, n'avaient même pas le droit de vivre avec les autres, ils devaient vivre à l'écart de la ville. Et ces dix lépreux, Les lépreux, donc, sont des gens qui étaient, humainement parlant, qui n'étaient plus traitables. Il fallait donc que les Juifs de leur temps fassent très très attention à bien vérifier les moindres petits signes qui leur indiquaient que la lèpre commençait à les attaquer. Parce que la lèpre va d'abord attaquer les muscles de l'intérieur, avant que ça sorte à l'extérieur, et déforme complètement les muscles des os. Et donc, les Juifs faisaient très attention à bien vérifier qu'il n'y avait pas les premiers signes avant-coureurs de la lèpre, et dès qu'ils en voyaient un, tout de suite, ils essayaient de se faire soigner, parce que si la lèpre était traitée tout de suite, on arrivait parfois à la guérir. Une fois que la lèpre avait tout envahi, on ne pouvait plus rien faire. Et il y a 10 lépreux, pourquoi? Donc les pères de l'Église expliquent qu'il y a 10 lépreux parce qu'il y a 10 commandements. Et que la lèpre, c'est le péché. La lèpre peut atteindre chacun de ces 10 commandements. Et donc en fonction de nos tempéraments, ceux qui sont colériques, ceux qui sont sanguins, ceux qui sont flegmatiques, ceux qui sont mélancoliques, en fonction de notre tempérament, le démon, qui est un malin, va essayer d'attaquer certains commandements. C'est différent pour chaque personne. Il y en a qui vont avoir plus de problèmes avec les commandements 1, 2 et 3, qui ont Dieu directement pour objet, et d'autres qui vont avoir d'autres problèmes différents, plutôt avec les commandements de la deuxième table, de 4 à 10, qui nous font nous occuper correctement du prochain. Et donc, il faut connaître, se connaître soi-même, pour savoir surtout contre quel commandement le démon cherche à s'infiltrer dans mon âme. Et ça, c'est la connaissance de soi-même. D'où la nécessité pour chacun d'entre nous d'apprendre à connaître où sont les fissures dans notre âme. On a tous des fissures dans notre âme. Les fissures sont différentes. Il y en a qui vont plus être attaqués par la concupiscence des yeux. D'autres puissent attaquer par la concupiscence de la chair, d'autres puissent attaquer par l'orgueil, certains ont 2 problèmes, certains ont les 3 problèmes à la fois. Et donc, en fonction de nos faiblesses, il est plus facile pour nous d'arriver à déterminer où je dois porter l'estocade au démon pour le mettre dehors. Je dois donc faire comme le jardinier. Et si j'attends et que je laisse les mauvaises herbes pousser, je commence à tomber dans un état de faiblesse. C'est pour ça que le jardinier, tous les matins, tous les soirs, il vient et enlève les mauvaises herbes. Même si la mauvaise herbe fait quelques millimètres, il l'arrache tout de suite pour qu'elle ne se développe pas. C'est pareil pour les péchés véniels. Certes, le péché véniel n'est pas un péché mortel, ne coupe pas de la charité. Mais si le péché véniel se développe et se multiplie dans mon âme, je prouve au bon Dieu que j'ai plus vraiment de l'amour pour lui. Dire une petite méchanceté à son épouse, est-ce que c'est une faute grave? Pas forcément. Est-ce que quelqu'un aurait le droit de dire, oh, j'ai dit une dizaine de petites méchancetés à mon épouse et à mon époux cette semaine, la belle affiche m'a dit que ce n'était pas une faute grave, bon, on laisse courir. Quelque chose qui ne va pas. Si un époux aime son épouse, si une épouse aime son époux, si elle ou il a eu un petit mot de travers, une petite impatience, il s'excuse. Oh, mais ce n'est pas si grave que ça parce que je ne lui ai pas coupé le cou, je ne lui ai pas donné une paire de gifles. C'est simplement une petite saute d'humeur. Et si vous laissez faire des choses comme ça prouve quoi? Que vous ne vous aimez plus, pardi. Bon, bien sûr, il peut y avoir des cas où il y a des choses qui doivent être dites, des choses doivent être dites, c'est absolument évident. Mais il est capital que nous apprenions à connaître où sont nos faiblesses. L'Église appelle ceci la lutte contre le défaut particulier. Saint Ignace de Loyola, dans ses exercices, insiste beaucoup là-dessus. Il disait à ses jésuites, une des choses les plus importantes, c'est la connaissance de soi-même. Il exigeait que tous ses moines fassent cet examen particulier 2 fois par jour. Je vous conseille de le faire 1 fois par jour. D'abord, pour pouvoir faire l'examen particulier, c'est-à-dire l'examen d'un petit péché véniel, mais qui est très fréquent dans sa vie. Il ne faut pas examiner des gros péchés, parce que c'est évident qu'il faut les éliminer. Mais c'est le petit péché véniel, la petite fissure si vous voyez, dans le mur de protection autour de l'âme, c'est par là que le démon pénètre. Et donc, pour lutter contre le défaut particulier, faire l'examen particulier, il faut connaître son défaut particulier. Donc, il faut connaître votre tempérament. Et en général, à partir du tempérament, on arrive à déterminer le défaut particulier. Les colériques, par exemple, doivent travailler surtout sur l'impatience, c'est évident. Les sanguins, au contraire, doivent travailler plutôt sur les manquements à l'égard de la justice. Souvent, le problème des sanguins, c'est le vol ou le mensonge ou les deux à la fois, souvent. Après, le mélancolique, il faut qu'il travaille sur les bouderies. Et le flegmatique, qui a la paresse comme canne, et bien, il faut qu'il travaille évidemment sur la paresse pour lutter contre ça. Vous voyez, comme ces choses sont extrêmement importantes. Et encore une fois, en fonction de votre tempérament, vous allez devoir examiner un défaut particulier. N'en prenez pas trois ou quatre, c'est trop compliqué. Il faut en prendre un et vraiment lutter contre lui. Et en général, tous ces défauts sont unis entre eux. Et donc, si vous arrivez à éliminer le défaut particulier du péché véniel, déterminé, vous arriverez à arranger bien des choses. Alors, en fonction de ça, on peut arriver à pas gaspiller son énergie spirituelle avec des tas de choses. On attaque surtout les allées du jardin qui sont plus exposées aux démons. Parce que je sais que dans cette allée-là, contre tel commandement, j'ai plus de problèmes que contre tel autre commandement contre lequel j'ai pas de problème. Alors, vous allez me dire, mais aujourd'hui, quelles sont les allées qu'il faut surtout examiner? Beaucoup de gens pensent qu'il faut d'abord examiner à fond le sixième et le neuvième commandement. Je pense que c'est une erreur. Bien sûr, il faut lutter contre ces péchés-là, c'est évident. Mais il me semble qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, y compris chez nos catholiques, il faut surtout travailler sur la première allée et la cinquième allée. Chose qu'on oublie. Première allée, c'est le premier commandement, le plus commandement, le plus important de tous les commandements. Un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. On voit très bien dans l'Écriture sainte, surtout dans l'Ancien Testament, à quel point Dieu déteste le péché contre le premier commandement. L'adoration de quelqu'un qui n'est pas Dieu. L'adoration d'une chose, d'une circonstance, de quelque chose, de quelqu'un qui n'est pas Dieu. Donner à une créature l'honneur qui n'est dû qu'à Dieu seul. Lisez les premiers textes de la Sainte Écriture dans l'Ancien Testament, et vous verrez les difficultés des Hébreux avec ce péché-là, qui adorait constamment les faux dieux, qui était tenté par les faux dieux à longueur de journée, et tenté par ce péché qu'on appelle le péché d'idolâtrie. Et Dieu a dû être d'une dureté extraordinaire pour empêcher justement la contamination des Hébreux, le peuple élu de l'Ancien Testament, par ces idées fausses, par ces adorations du faux dieu. Il a dû interdire, par exemple, aux hommes hébraïques, aux juifs, d'épouser des femmes d'autres tribus qui n'adoraient pas le vrai Dieu. Parce qu'ils savaient que sinon, ils allaient se faire contaminer. Et c'est ce qui est arrivé même à des grands rois qui avaient reçu des grâces extraordinaires. C'est comme ça qu'un des plus grands rois de l'Ancien Testament du peuple juif, le roi Salomon, s'est fait avoir par les femmes étrangères. Et dit l'Écriture sainte, et il a fini par se donner aux fausses divinités. Et me dire, mais monsieur l'abbé, ces péchés ne sont pas fréquents aujourd'hui. Au contraire, ils sont très fréquents. Il faut faire un examen de conscience. Est-ce que dans la pratique, je fais passer certaines choses avant le bon Dieu? Ça peut être des choses bonnes. Un époux qui ferait passer son épouse avant le bon Dieu pécherait gravement contre le premier commandement. Même si vous devez aimer votre épouse, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elle doit passer avant le bon Dieu. J'ai connu des jeunes traditionalistes qui étaient capables allègrement de faire sauter la messe du dimanche, tout simplement parce que il y avait ce jour-là sur Internet un match de football qu'ils ne voulaient pas rater. J'ai connu ça. J'ai connu, on me rappelle aux États-Unis, pour le jour d'une des finales de, je ne sais plus si c'était le baseball américain ou un de ces sports-là. Pour la grande finale, le Super Bowl, eh bien, les hommes manquaient tous la messe, pratiquement tous la messe, si la messe avait le malheur d'être à l'heure de la grande finale de sportive. Même si la messe, ça n'arrive qu'une fois par an. Une fois par an, vous avez fait passer le baseball ou le football ou ce que vous voulez avant le bon Dieu. Ça, c'est de l'idolâtrie pure et simple. Vous voyez, il faut bien comprendre ces choses-là. Deuxième allée qu'il faut protéger très soigneusement, c'est la cinquième allée. Tu ne tueras pas. Et là, encore une fois, les gens ont tendance à aller un peu trop vite sur cette allée en disant, oh, moi, j'ai jamais tué quelqu'un. Attention, il y a deux façons de tuer les gens. On peut tuer les gens dans le corps, on peut tuer les gens par l'âme. Tuer l'âme de quelqu'un, c'est encore bien plus grave que tuer son corps. Et donc, il faut se poser cette question, est-ce que par mon comportement, par le manquement à mon devoir d'État, par ma façon d'agir, par ma façon de ne pas agir, par mes paroles ou par mon silence, est-ce que j'ai tué, sali, détruit l'âme du voisin? Et on n'y pense pas assez. Donne un exemple tout simple. Imaginez un adolescent, 15-16 ans, qui apprend à son petit frère, qui en a 8 ou 9, à voler dans un supermarché. Il lui apprend à détecter les caméras et à commencer à voler dans un supermarché. Et puis ce jeune homme de 16-17 ans, à 21 ans, vient faire la retraite, c'est un exemple que je donne bien sûr, et s'accuse, change complètement, il dit, Monsieur l'abbé, j'ai volé quand j'étais plus jeune, j'y ai volé dans un supermarché. Plusieurs fois. Et j'ai appris à mon petit frère à voler. Là, on touche un deuxième péché. Il faut qu'il s'accuse. Il s'est accusé du péché de vol, mais aussi du péché par lequel il a poussé son frère à offenser le bon Dieu. Un péché de scandale. C'est le nom de ce péché. Et les phrases les plus sévères de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile, c'est surtout ce péché de scandale. Vous connaissez la phrase? Malheur par qui le scandale arrive, dit notre Seigneur. Il vaudrait mieux pour celui qui est coupable d'un péché de scandale d'être jeté à la mer avec une meule de moulin autour de son cou. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de nager avec une meule de 300 kilos autour de votre cou. Bon courage. Vous n'allez pas rester longtemps à la surface. Pourquoi la gravité de ce péché? Dans un cas comme ça, pour revenir à l'exemple que je viens de vous donner, il faut aussi, voilà, monsieur l'abbé, j'ai appris à mon petit frère à voler. Et mon petit frère, maintenant, est devenu un grand adolescent. Est devenu un voleur professionnel, littéralement. Il s'est mis dans un gang de malfrats et il vole toute la journée parce que je lui ai appris. Est-ce que vous regrettez votre péché? Ah, je regrette tous mes vols passés. Est-ce que vous regrettez d'avoir appris à votre petit frère à voler? Ben oui, monsieur l'abbé. Comment vous allez réparer maintenant? Vous pouvez vous confesser. Il faut obtenir la conversion de votre frère. Et ça, c'est beaucoup plus difficile parce que là, c'est plus votre âme qui est en jeu, c'est la sienne. Autre exemple. Ces péchés qui sont tellement fréquents dans la tradition, même dans la tradition. Imaginez des parents qui ont une jeune fille qui ont, je sais pas, 15-16 ans, encore une fois, c'est des exemples, je ne suis personne en particulier. Des parents qui ont une jeune fille de 15-16 ans qui lui laissent un peu tout faire, qui ne remplissent pas leur devoir de surveillance. Au lieu d'être des bons chiens de garde pour protéger l'âme de leur enfant, ils deviennent ce qu'on appelle des chiens muets. Le chien muet, c'est celui qui n'aboie pas lorsque le loup arrive. Et du coup, le loup peut arriver et croquer les brebis. Bien imaginez un père de famille, une mère de famille qui ont réagi comme ça, n'ont pas fait leur devoir d'État. Et la fille est très mal tournée. Et la fille est devenue, excusez-moi du terme, une traînée littéralement dans le monde moderne. Et puis au bout de 10 ans, 20 ans, ses parents viennent faire la retraite et s'accusent de ses péchés. Mais maintenant, il faut rattraper les conséquences du péché, du scandale, par leur faute, par le fait qu'ils n'ont pas parlé alors qu'ils devaient parler, leur fille, et vit maintenant dans le péché le plus complet. Et c'est pour ça que Dieu est tellement sévère avec le péché de scandale. Parce que le péché de scandale, humainement parlant, est très, très difficile à rattraper. Très, très difficile à rattraper. Alors, vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, si je constate que certaines allées de mon âme commence à être envahi par le péché véniel, par les mauvaises herbes spirituelles. Qu'est-ce que je dois faire? La réponse est dans l'évangile d'aujourd'hui. Allez vous présenter au prêtre. Notez que les 10 lépreux ont été guéris seulement après. Dieu aurait pu les guérir sur le champ, immédiatement. Non, il attend. Allez vous présenter au prêtre. Et pourtant, c'est les prêtres de l'Ancien Testament qui n'ont pas le pouvoir sur les péchés. Eh bien, ils vont se présenter au prêtre et à ce moment-là, ils sont guéris. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que quand je constate que mon âme commence à être envahie par le péché véniel, je dois aller au prêtre pour la confession, pour la communion, pour la sainte messe, pour la direction spirituelle dans certains cas. Justement parce que le prêtre est le ministre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien comprendre ces choses-là. Et donc, si je vais au prêtre, je vais pouvoir soigner mon âme. Il ne faut pas simplement aller se présenter au prêtre par la confession régulière. Surtout pour, si je constate encore une fois, la prolifération des mauvaises herbes spirituelles dans mon âme. Il faut aller se présenter aussi à quelqu'un d'autre. Il faut aller aussi se présenter à notre Sainte Vierge Marie. Présenter à Notre-Dame, parce que Notre-Dame est l'intermédiaire des grâces que le bon Dieu a préparées pour nous. La grâce de la confession, la grâce de l'absolution, elle vient à vous par la Sainte Vierge, puisqu'elle est médiatrice de toutes les grâces. Et donc, il faut aussi aller se présenter à notre Sainte Vierge Marie. Rappelez-vous, Sainte Marie-Madeleine, avant sa conversion, bouleversée par un serment de notre Seigneur Jésus-Christ, elle veut se convertir, mais elle ne sait pas, elle n'ose pas venir directement à notre Seigneur. Qu'est-ce qu'elle fait? La tradition nous dit, elle est allée voir la Sainte Vierge. Et elle a commencé à avouer tous ses péchés à notre Sainte Vierge Marie. Notre Sainte Vierge Marie l'a relevée avec bonté et l'a envoyée à son divin Fils. Parce que notre Sainte Vierge Marie n'a pas le pouvoir de pardonner un seul péché véniel. Elle a indiqué où était son fils, il est à la maison de Simon, le lépreux, allez là-bas et vous le trouverez. Et elle y va, embrasse les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ et va essuyer les larmes, ses larmes, ses véritables larmes de contrition parfaite avec ses cheveux. Et notre Seigneur Jésus-Christ va lui dire, va en paix, vos péchés sont, allez en paix, vos péchés sont pardonnés. Il faut donc aller se présenter au prêtre, il faut aller se présenter à la Sainte Vierge, il faut aussi se présenter ailleurs, eh bien, chers frères. Sans doute vous choquer, il faut aussi aller vous présenter au monde. De quoi le monde a-t-il besoin le plus? Ce dont le monde a le plus besoin aujourd'hui, le monde moderne dans lequel vous et moi nous vivons, c'est de catholiques devant eux qui agissent, qui vivent, qui pensent comme des catholiques. L'exemple classique que je peux donner, c'est la soutane du prêtre. De quoi le monde a-t-il besoin? Le monde moderne a besoin de voir des prêtres en soutane. Et quand ils voient un prêtre en soutane, ils sont obligés de penser au bon Dieu. Même si la plupart s'en fichent. Et je le vois très bien, moi, à chaque fois que je vais faire une course dans un grand magasin, si je rencontre une centaine de personnes, comment ça se passe? Si ces 100 personnes que je vais rencontrer en soutane, sans leur parler, je les vois, je dirais 95 s'en fichent complètement. Je pourrais être avec une soutane jaune à point vert scintillant dans le noir, ils ne bougeraient pas. Il y en a 4 qui vont être agressifs. Et une personne qui va avoir une réaction bonne. En général, c'est un simple sourire. Parfois, il vient me serrer la main. Merci, monsieur l'abbé. Merci, mon père, pour la soutane. Eh bien, ça peut être le point de départ d'une conversion. Vous voyez? Autre exemple, vous allez comprendre par ces exemples. Je m'excuse de multiplier ces exemples, mais sans exemple, on ne comprend rien en général. Regardez le monde moderne. La franc-maçonnerie a voulu une chose, la destruction de la femme. Parce qu'ils savent que pour détruire la famille, cellule de base de la société, il faut d'abord détruire la femme. Il faut aussi attaquer l'homme, c'est sûr, mais c'est d'abord la femme qui est attaquée. C'est clair et net dans le monde moderne. Et donc, une des façons, pour la façon utilisée par la franc-maçonnerie pour détruire la femme, c'est la corrompre. On ne peut pas détruire la femme, donc on va la corrompre. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que les femmes, aujourd'hui, en général, dans le monde moderne, les païennes qu'on voit à droite et à gauche, pour les jeunes surtout, et même parfois les moins jeunes, sont habillées pratiquement, presque toutes comme des prostituées. De quoi les hommes ont-ils besoin dans le monde moderne? Ils ont besoin de voir une femme habillée correctement, avec féminité, avec dignité, avec honneur. Et quand je vois, c'est rare, mais quand je vois en train de faire mes emplettes dans un grand magasin, une femme habillée avec honneur, avec dignité, avec féminité, véritable féminité, je ne le fais pas parce que ça pourrait être très mal interprété, mais j'ai envie d'aller lui serrer la main en disant « Merci ». Pour votre façon de vous habiller. C'était pour vous expliquer l'importance du témoignage de sa foi catholique par la façon de se comporter. C'est facile d'avoir la foi. C'est facile de conserver, de connaître la tradition de l'Église sur le bout des doigts. C'est facile de connaître tout le magistère de l'Église. Et ce n'est pas sur vos connaissances que vous serez jugé, que je serai jugé le jour de ma mort. Nous serons jugés le jour de notre mort par notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon de nous comporter. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole de bon Dieu et qui la met en pratique. Donc, mes bien chers frères, faisons attention à ces choses-là. Nous sommes des lépreux en puissance. Et si je constate sur mon âme la plus petite tache qui m'indique que je commence à attraper la lèpre, tout de suite, je vais aller voir le prêtre pour me confesser, ne pas attendre, reprendre des forces, nettoyer mon corps, nettoyer mon âme spirituelle et retrouver l'état de grâce, retrouver la pitié du bon Dieu. Passons par la très sainte Vierge Marie, mes bien chers frères. Passons par Notre-Dame. Encore une fois, n'oubliez pas que tous ces péchés modernes nous contaminent. On ne peut pas passer. C'est impossible de passer, de vivre dans une poubelle sans sentir mauvais. Qu'est-ce que vous voulez? C'est impossible. Donc on a plus besoin aujourd'hui des sacrements qu'avant. Au Moyen-Âge, au temps de Saint-Louis, bon, je pense que c'était possible de garder la foi et de pratiquer la foi catholique relativement facilement, parce qu'il y avait des messes partout, parce qu'il y avait des prêtres partout, des religieuses partout. L'Église imprégnée, si vous voulez, il y avait une union entre l'Église et l'État. Et si vous voulez, quand vous avez Saint-Louis comme roi, c'est pas pareil que d'avoir Macron comme prince, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des petites différences quand même. Donc il était relativement facile de vivre un état de grâce. Et pour ça, certains docteurs vont jusqu'à dire que dans ces siècles de foi, comme le Moyen-Âge, par exemple, 13e siècle, tant de Saint-Louis, tant de Saint-Thomas d'Aquin, la plupart des gens se sauvaient, disent-ils. Et je pense qu'ils ont raison. Mais aujourd'hui, combien de personnes se sauvent? Heureusement qu'on ne sait pas, d'ailleurs. Parce que si vous et moi, nous savions le nombre de personnes qui vivent en état de grâce, dans le monde moderne, je pense qu'on serait complètement découragé. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur, que c'est basé sur ses propres paroles. Nombreux sont ceux qui prennent la voie large qui mène à la perdition, et peu nombreux sont ceux qui prennent la voie étroite et resserrée qui mène à la vie éternelle. Alors, mes chers frères, utilisez le prêtre. C'est quand vous n'aurez plus de prêtre que vous comprendrez ce que c'est qu'un prêtre. C'est quand vous n'aurez plus de messe que vous comprendrez ce qu'est une messe. C'est quand vous n'aurez plus de moyens de vous confesser, plus de moyens de communier, vous comprendrez l'importance de la confession, de la communion. Et à ce moment-là, vous regretterez. Ah oui, avant, on avait tout ça. On avait la messe, on avait la confession, on avait la communion. Et tout ce qu'il vous faut pour vous sauver ici. Ce n'est pas ça qui va faire disparaître toutes les tentations du monde, bien sûr que non. Mais vous serez plus fort pour lutter. Alors demandons cette force. Moi, le premier, j'en ai besoin aussi. Demandons cette force à la très sainte Vierge Marie, par la très sainte Vierge Marie, puisque c'est par elle que toutes les grâces du bon Dieu, de son divin Fils, nous sont données. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.